Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Mal vous fasse. L'adolescence, cette nouvelle naissance d'un point de vue hormonal, avec à la clé des transformations qui vont bouleverser la vie biologique, psychique, sociale, ce temps où l'on souhaite s'émanciper des injonctions parentales, s'engager intensément dans des relations amicales et amoureuses, donner du sens à sa vie. L'adolescence, ce temps où l'on peut se sentir désorienté, pas à sa place, décalé, avec des interrogations sur son identité, son image, son corps. En tant que parent ou grand-parent, comment les accompagner pendant cette période? Comment traverser les grandes et petites crises? Comment mieux communiquer, surmonter les incompréhensions, apaiser les conflits, comprendre leurs comportements et attitudes qui nous dépassent parfois? Éléments de réponse ce matin avec nos experts. Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Antenne ouverte évidemment aux ados qui nous écoutent. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Absolument concernée par le sujet du jour. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Moi j'ai le sens du timing, donc je vais adresser mes vœux à tous les parents et aux autres.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Vas-y Ludo, là, il faut que tu rentres avec moi dans le château si on veut buter le boss de fin. Prends le troll sur le côté. Là.
C'est pas un troll, c'est un gorille.
Ah,
très marrant, on dirait le cafard avec un bonnet de piscine.
Mais c'est pas possible, vous êtes encore là, je vois votre console, mais enfin, mais vous allez pas passer vos vacances devant cet écran.
Ah non, pas la lumière. Ah, ça, je fonds,
Va fondre un peu dehors au soleil, là. Ah, on se croirait dans une vieille pantoufle tellement ça pue dans cette chambre. Allez. Oh, puis c'est pas possible, là. Non, mais attends, je vous préviens, là, c'est pour aller zoner sur votre banc, là, c'est pas la peine, hein. Je préfère encore que vous restiez dans votre chambre à jouer à la console, tiens.
Extrait de la série Soda. Bonjour Pascal Setens.
Bonjour.
Alias le grand frère, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez été éducateur, vous êtes éducateur de terrain, ancien directeur de service jeunesse. On vous doit notamment l'émission Pascal le grand frère et vous publiez aux éditions Bussière, Parents d'ados de A à Z, sous-titré Traverser les crises, renforcer les liens. Bonjour professeur Marie-Rose Moreau, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialiste des enfants et des adolescents. Vous dirigez la maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Et vous avez notamment publié « Et si nous aimions nos adolescents » chez Bayard Éditions. Bonjour docteur Olivier Revol.
Bonjour.
En duplex de Lyon, vous êtes neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du service psychopathologie du développement de l'hôpital Femmes, Mères, Enfants. Et vous avez notamment publié « J'ai un ado, mais je me soigne ». Bonjour Maxence, bienvenue.
Bonjour.
Tu as 16 ans, tu habites Dijon, tu es en terminale maths physique et tu seras notre fil rouge tout au long de cette émission. Tu pourras intervenir à ta guise. Alors, le Robert nous dit que l'adolescence, c'est l'âge qui suit la puberté et précède l'âge adulte. Mais encore, Olivier Revol, comment définiriez-vous l'adolescence?
C'est une très bonne question. C'est une période fondamentale où on doit s'autonomiser, on doit quitter la famille, on doit prendre ses repères. Et contrairement à ce qu'on imagine, l'adolescence dure plus longtemps. Et actuellement, les données neurologiques nous rappellent que le cerveau n'est pas terminé avant 25 ans. Et que finalement, on peut dire que l'adolescence, c'est 10-25 ans. Puisque la partie frontale du cerveau qui sert à réfléchir avant d'agir, elle a encore un peu de temps pour se former.
L'adolescence est de plus en plus précoce, docteur Revol.
Il me semble que dès le CM1, CM2, eh bien les enfants sont aspirés par l'adolescence avec les codes qu'ils veulent emprunter aux plus grands.
Alors, professeur Marie-Rose Moreau, vous aimez bien cette citation du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, « L'adolescence est une maladie qui passe toujours ».
Mais oui. Alors, j'aime beaucoup Winnicott parce qu'il a bien compris les enjeux des adolescents. Et effectivement, l'idée, c'est que l'adolescence est une phase de transition. Alors, c'est rude pour les adolescents, c'est rude pour les parents, mais ça passe. Mais oui, parce que c'est un processus de maturation, c'est un processus de transformation. Et donc, faut avoir ça à l'esprit, que l'adolescence est une période d'expérimentation, on essaye, on teste, on cherche. Et donc les parents aussi d'ailleurs le font. Et donc lorsqu'on sait ça, on prend les choses un peu plus tranquillement et on arrive à faire ce passage ensemble.
Pascal Sautens.
Oui. Oui, effectivement, je dirais qu'il y a une recherche d'autorité, donc on va bafouer l'autorité parentale souvent. Et effectivement, je rejoins tous les médecins, les pédopsychiatres, les psychiatres, parce que à un moment donné, on a besoin d'aller les voir. Moi, j'ai fait le choix d'un jour d'aller voir un psy parce que c'était nécessaire pour moi, mais j'avais 35 ans, donc ma crise d'ado était passée, d'accord. Mais effectivement, cette période est très compliquée parce que chaque ado ne réagit pas de la même manière.
Alors, adolescence ne rime pas systématiquement avec crise. Dans la majorité des cas, l'adolescence se déroule sans grand heurts, docteur Revol.
Oui, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir une crise frontale. On n'est pas obligé de s'opposer aux parents de façon sévère. Mais il faut à un moment donné quand même prendre ses repères, choisir un métier que les parents n'avaient peut-être pas envie qu'on fasse, choisir une orientation particulière. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer pour pouvoir exister en tant que tel. Et c'est pour ça qu'ils résistent le plus souvent. Hein. Résiste, prouve que tu existes.
Alors vous qui côtoyez des adolescents, quels sont les clichés qui vous agacent le plus souvent quand on parle de Marie-Rose Moreau ?
Ah oui, alors il y a beaucoup de choses qui m'agacent lorsqu'on parle des adolescents parce qu'en fait on a des préjugés négatifs sur les adolescents alors que c'est une période formidable, c'est une période où on construit l'adulte de demain, où il y a plein de possibilités, où on peut effectivement, comme le disait Olivier, se démarquer et trouver sa propre voie. Et alors en fait on se sent souvent déçu, menacé, inquiet, on considère qu'ils n'ont pas d'avenir, qui font pas ce qu'il faut pour assumer leurs responsabilités. Enfin, on a toute une série de regards négatifs qui en fait les encombrent et leur fait du mal en fait, hein, parce que dans ce passage il y a un seuil. Il faut avoir envie de devenir adulte et pour avoir envie de devenir adulte, il faut aussi avoir l'idée qu'on est accueilli dans ce monde et que on est capable de devenir adulte. Hein. Donc moi, je me bats très fort contre ces préjugés négatifs parce que ça nous fait du mal à nous les parents. Mais ça fait du mal aussi aux adolescents dans cette phase de transformation, de métamorphose qu'est l'adolescence.
Maxence, tu es d'accord avec ça ?
Pour être honnête, je suis plutôt d'accord. j'ai pas trouvé de mal avec mes parents là-dessus. J'ai pas fait spécialement de crise. Mm-hmm. Mais j'ai quand même senti qu'il y avait des différences au niveau de comment les gens me considéraient. On me considérait plutôt comme plus trop comme un enfant. Mm-hmm. Et de plus en plus comme un adulte depuis un ou deux ans, surtout avec tout ce qui se passe au niveau crise sanitaire.
Et quels sont les clichés qui t'agacent quand on parle des adolescents de façon très générale? Qu'est-ce qui t'embête?
Ce qui m'embête, c'est que des fois, quand on dit qu'on est adolescent, on pense souvent justement aux ados boutonneux qui restent toute la journée dans leur console ou à pas faire grand-chose. Alors qu'en fait, de manière générale, même autour de moi, 90% des adolescents que je connais, ils sont super intéressants, c'est possible d'avoir des discussions limite d'adultes avec eux et ils font plein de trucs autour, quoi. Ils cherchent à avoir des loisirs, à se développer et pour devenir des adultes, quoi. Ils cherchent pas trop à rester en enfance.
Pascal, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance à l'endroit des adolescents. Il n'y a pas de cliché quand vous parlez d'eux.
Jamais. Et puis, je pense que le terme crise d'ado, déjà, crise, c'est violent. Donc, je ne sais pas si on pourrait trouver un autre mot à la place de cette crise d'ado, parce que pour moi, c'est comme un coup de poing. Hein. Je prends un coup de poing, je tombe KO. Mais c'est intéressant d'entendre ce jeune. Effectivement, le cliché boutonneux, etc., c'est plus du tout ça aujourd'hui. L'ado, ça reste un ado, quelle que soit sa fonction au sein de la famille. Mais effectivement, dans ce bouquin, je donne des clés. En fait, je donne pas de solutions parce que je suis pas là pour donner des solutions et je serai pas le meilleur à donner des solutions. Mais beaucoup de clés, beaucoup de bienveillance et ça peut aider effectivement des parents en difficulté.
Gonaël Boulet.
Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que dès qu'on dit l'âge de nos enfants, souvent quand on dit qu'on a un enfant dans l'âge de l'adolescence, l'interlocuteur dit ah ça va avec une grimace un peu. On suppose d'emblée qu'il y a une crise, alors qu'effectivement c'est pas toujours le cas. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est une période en tant que parent qui est compliquée parce qu'effectivement on a pas mal d'incompréhensions qui viennent du fait que avec la toute petite enfance, j'ai l'impression que c'est là où comme si on avait une incapacité nous-mêmes à se reconnecter à cette phase de la vie. C'est-à-dire que si vous regardez bien, on a tous beaucoup beaucoup de souvenirs de l'âge de latence, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'âge du primaire. On se souvient bien des jeux avec lesquels on jouait, on se souvient bien de notre état d'esprit de l'époque. Mais bien sûr, la toute petite enfance et l'adolescence, c'est comme si on avait un peu un blackout sur notre propre vie. Et je pense qu'on a beaucoup de mal en tant que parents à retrouver ces sensations qu'on avait. Et moi, personnellement, j'ai retrouvé un cahier, quand même, un journal intime que j'avais de l'époque. Et c'est fabuleux de retourner là-dessus, parce qu'on retrouve toutes ces questions qu'on avait à l'époque.
Oui, il est vrai que souvent, je dirais que les parents ne grandissent pas avec les enfants. Mmh. Et c'est ce retard qui fait qu'il y a cette fameuse crise, parce que l'enfant n'est plus compris, et le parent ne comprend plus son enfant. Donc il faut grandir avec eux, il faut pas parler comme eux, mais comprendre leur langage, leur expliquer qu'effectivement le langage à la maison est très particulier, et à l'extérieur, avec les amis, avec leurs potes, au collège ou au lycée, c'est un autre langage. Moi, j'ai eu le cas avec mes enfants, mais mes enfants n'ont pas fait de crise d'ado, étonnamment.
Je les comprends avec
vous. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Parce que jusqu'à 25 ans, donc j'ai encore un an, et après, ce sera bien pour un. J'ai encore 2 ans à attendre pour le deuxième, donc on verra dans 2 ans si tout se passe bien.
Docteur Olivier Revol, pour bien comprendre les heurts et conflits qui peuvent émailler les relations entre parents et ados, il faut peut-être rappeler que les adolescents subissent une véritable tempête hormonale qui a bien évidemment des répercussions sur leur fonctionnement cérébral et sur leur personnalité.
Bien sûr, c'est une période où il y a beaucoup de remaniements et où ils ont perdu leurs repères et ils auraient besoin que, eh bien, on les laisse un peu tranquilles, qu'on les laisse apprendre à se réapprivoiser. Et j'aime bien ce que disait Marie-Rose, c'est-à-dire que, en fait, on est là, nous, les médecins, pour essayer de décontaminer les rapports. Et les parents ont perdu le code. Vous pouvez pas rentrer dans la chambre comme on pouvait rentrer auparavant. Et ils sont face à l'adolescent comme devant une porte verrouillée dont le code a changé. Il faut leur apprendre aux parents et aux enfants que il y a des choses qui ont changé. Et finalement, le credo de l'ado, pour conclure, c'est à un moment donné, il dit à ses parents: vous n'avez pas à savoir ce que je pense, vous n'avez pas à savoir où je suis, et laissez-moi un peu d'autonomie.
Françoise Dolto comparait l'adolescent à un homard sans carapace. C'est toujours pertinent cette image, professeur Marie-Rose Moreau?
Oui. Cette image est très juste. D'ailleurs, il y a même parfois des adolescents qui me l'a dit. C'est-à-dire, la transformation est si importante que on a l'impression qu'on perd son image, sa carapace, on se reconnaît plus. Et il y a des garçons en particulier qui me disent que les changements sont si brutaux dans leur corps, dans leur envies, dans leur manière de penser, que le matin, quand ils se réveillent, ils ont un moment d'inquiétante étrangeté, quoi. Mmh. Et alors, eux, ils vivent ça comme ça, et donc, mais leurs parents aussi, leurs enseignants aussi, qui voient ces transformations. Donc, le fameux complexe du homard de Dolto, et en tout cas, il dit quelque chose, en plus, c'est très corporel, c'est très inscrit dans les sens.
Maxence, tu te reconnais dans ce complexe du homard?
Alors, pour être très honnête, pas trop, parce qu'en fait, j'ai toujours été entre guillemets pressé de devenir adulte.
Ah ouais.
Donc, quand j'ai changé, ça s'est fait plutôt progressivement en fait. Et même quand c'est arrivé, j'ai tout fait pour l'accepter au maximum. Ouais. Ouais. Et j'ai pas spécialement eu de complexe là-dessus. J'ai juste eu des changements au niveau psychologique notamment il y a 3-4 ans parce que. Fallait que ça arrive, quoi, mais c'est pas des trucs qui m'ont dérangé, c'est des trucs qui m'ont justement permis de mieux m'accepter, en fait.
Alors, Françoise Dolto comparait les ados à des homards sans carapace. Vous, Pascal Setin, vous comparez les ados à des gremlins,
à partir de minuit, ils se transforment.
Voilà, c'est ces jolies créatures qui se transforment en petits monstres ingérables si on les nourrit.
Mais il en pense quoi, Maxence, justement, minuit. Le gremlins, est-ce qu'il se reconnaît plus dans le gremlins ou pas?
Maxence, plus gremlins que homard, peut-être?
Oui, peut-être gremlins, parce que des fois, enfin justement depuis l'adolescence, je peux m'énerver ou prendre des coups, pas des coups de sang parce que je m'énerve pas si facilement que ça. Mais ouais, des fois devenir incompréhensible et me poser des questions. Mais de manière générale, ça dure jamais très longtemps et j'arrive toujours entre guillemets à retomber sur mes pattes. Et à retrouver ma carapace de homard.
Alors, docteur Olivier Revol, il faut bien comprendre que pendant la période de l'adolescence, cette période de changement, l'adolescent doit faire le deuil de l'enfance, deuil de son corps d'enfant, de ses illusions, de ses rêves d'enfant, deuil d'une certaine insouciance également, un sentiment de perte qui peut avoir des répercussions sur son comportement, sa façon de communiquer.
Ben oui, j'aime bien ce que vous dites, Ali.
C'est vous qui l'avez écrit.
Ben oui, c'est moi qui l'ai écrit. C'est pour ça que je trouvais ça étrangement familier. C'est, effectivement, c'est une période de perte et on a tendance à l'oublier. Et quand on a perdu quelque chose de quelqu'un qu'on aime bien, on est en deuil. Et l'adolescent, il porte le deuil de façon bizarre, figurez-vous. Il est en position horizontale et la musique en perfusion et c'est pas marqué en deuil sur son front. Et donc, du coup, les parents ne comprennent pas pourquoi il est comme ça, alors que quand vous êtes en deuil, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Et je reviens juste une seconde sur le homard, j'ai bien aimé ce que vous aviez dit. Le complexe du homard fait que, effectivement, il a perdu sa carapace, il n'a pas la nouvelle. Donc, il se sent vulnérable. Et c'est ce qui explique qu'il est un peu irritable, parce que quand vous êtes vulnérable, le homard, il met les pinces en avant pour se protéger. Or, l'irritabilité est le premier symptôme de ce deuil qui se manifeste surtout en famille. Et ce qui est intéressant pour les parents, quand ils disent « mais est-ce qu'il n'est pas malade ? Il est agressif, on ne peut plus lui parler, etc. » Demandez à votre enfant ou demandez-vous comment il est à l'extérieur. Et si on vous dit à l'extérieur il est adorable, mais que l'irritabilité est dédiée à la maison, eh bien c'est plutôt bon signe. C'est même un signe de bonne santé psychique.
Pascal Setins.
Oui, effectivement, à l'extérieur il a que ses amis, donc tout le monde se comprend. Et à la maison, les adultes ne comprennent pas leur ado et l'ado ne comprend pas l'adulte non plus. Donc effectivement, je rejoins un petit peu ce que vous venez de dire. Et en effet, très souvent le comportement, je dirais, agressif se retrouve à la maison et très rarement à l'extérieur.
Tiens, justement, première question de Natacha qui nous dit que son fils de 14 ans, plutôt bon élève à l'école et jusque-là plutôt paisible, devient de plus en plus agressif. Elle nous dit « je ne sais pas comment éviter l'escalade des engueulades ». Pascal Setins, comment afficher la paix d'un moine bouddhiste quand son adolescent se montre agressif ? Quels sont vos conseils ?
Je vais intervenir, tout simplement.
Non, quel est le conseil de base ?
Non, effectivement, je blague là-dessus, mais blague à part, s'il y a un changement de comportement qui est soudain, il faut peut-être regarder les fréquentations à l'école. Il faut peut-être regarder s'il n'y a pas du harcèlement. Parce que ça, on en parle très peu. Moi, j'en parle dans le bouquin. Et il faut essayer de se poser les bonnes questions, prendre son enfant à part, l'emmener à l'extérieur de la maison, essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, de lui poser des questions, communiquer, en fait.
Docteur Revol, que faire quand on assiste à une montée de l'agressivité chez son adolescent, jusque-là paisible ?
Effectivement, d'abord se demander si c'est dédié à la maison ou si c'est de partout. Si c'est de partout, là, il faut consulter parce que ça veut dire qu'il est pas bien. Si c'est dédié à la maison, ça veut dire que les interactions ont changé et qu'il faut qu'on amortisse un petit peu. Or, beaucoup de parents, en tant que parents, puis j'ai eu 4 enfants, ils étaient pas plus faciles que les autres. Eh bien, en tant que parents, on a envie de renvoyer cette agressivité et c'est pas bon. Il faut l'amortir. Et puis, je vais vous dire un truc maison, mais qui marche très bien. Et tous les parents l'ont noté. C'est très difficile de parler en face à face à son adolescent, c'est beaucoup plus facile de lui parler à côté,
dans la
voiture, ou en regardant une série, ou en bricolant. Et là, on peut lui dire, je reviens sur ce que tu as dit hier, ou la remarque que tu as fait à ton frère ou ta sœur, comment on aurait pu l'éviter? Et le parler à côté permet d'éviter le sentiment de réprobation qu'a l'adolescent en face à face, et permet de rentrer en communication avec lui.
Marie-Rose Moreau.
Oui, alors ça c'est un conseil très important. Comment on lui parle ? Bien sûr, on ne lui parle pas au moment où il se met en colère, au moment où il claque la porte, etc. À ce moment-là, tranquillité et zénitude. Mais après, dans un moment, effectivement, un moment d'échange, dans un moment où en tous les cas, les choses se sont calmées, on peut revenir, et on peut revenir en prenant ça au sérieux. Parce qu'en fait, si c'est de l'irritabilité uniquement pour la maison, hein, évidemment, si c'est quelque chose de plus général, il faut aussi chercher des causes, éventuellement des tas d'autres causes, y compris un malaise psychique important. Mais si c'est uniquement à l'intérieur de la maison, c'est vraiment, je suis en train de chercher ma manière à moi de parler, d'être, de me positionner, puis j'y arrive pas très bien, alors je fais des choses en excès. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut au fond rediscuter d'une manière de se parler, mais dans des moments indirects. On peut aussi aller manger quelque chose ensemble, ou alors sur le chemin on va acheter quelque chose, etc. Et on se parle dans ces moments-là, ce que les anthropologues appellent la parole indirecte, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas justement agressif et qui est quelque chose d'une de deux personnes qui vont trouver des manières de se parler.
Très bon premier conseil ce matin, Gonelle Boulet.
Oui, et puis ce qui est compliqué, c'est de trouver la différence entre ce qui est acceptable et inacceptable, y compris dans le conflit. C'est-à-dire que, effectivement, l'ado, il est quand même aussi en train de chercher ses limites. Et ce qu'il attend, même s'il ne donne aucun signe qu'il attend ça de nous, on est bien d'accord, il ne va pas nous le dire comme ça, mais ce qu'il attend quand même, c'est que nous, adultes, on lui dise ce qui est acceptable et inacceptable. Et il y a effectivement des mots, des gestes qui sont inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'escalade de la violence, mais effectivement, il vaut mieux reparler plus tard. Mais il y a un moment donné où c'est ça aussi, je pense, qu'ils attendent des parents. C'est, oui. Ce sont ces limites-là claires.
Absolument, ils ont besoin d'autorité. Et souvent, quand l'autorité est bafouée, on la laisse passer. Et quand on attend trop, bah, c'est trop tard. C'est-à-dire que si on revient sur un sujet qui a eu lieu il y a 24 heures, 48 heures, c'est trop tard. Il faut en parler effectivement dans la même journée, si cela est possible. Et effectivement, le face-à-face, c'est pas conseillé, parce que ça ressemble à un combat de boxe, en fait. Comme deux adversaires sur un ring qui se regardent face à face, je défie du regard. Effectivement, le face-à-face, c'est pas forcément bon.
Et je rappelle que vous êtes un adepte des arts martiaux. Oui. Allez, dans quelques instants, des conseils essentiels pour bien communiquer entre ados et parents. Ils nous recevront au téléphone une auditrice, Claire. En attendant, on écoute Jen Allwright. Interprété All Right.
À table.
Grand bien vous fasse.
À table.
Ali Rebéi.
À table les enfants.
Sur France Inter.
Eh oh, j'ai dit à table, ça fait 4 fois que je répète. Vous pouvez dire que j'ai enfer, moi je vais te faire la bouffe, les courses et puis le ménage.
Ça vous parle, ça, Gwenaëlle
Boulay. C'est marrant, c'est à table me parle beaucoup.
10h30, parents d'ados, comment surmonter les petites et grandes crises. Nos invités, le professeur Marie-Rose Moreau, le docteur Olivier Revol et l'éducateur Pascal Setens, alias Pascal le grand frère. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Et nous accueillons Claire. Bienvenue Claire.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Bordeaux.
Oui, merci pour tous vos conseils depuis le début de l'année, depuis le début de l'émission.
Merci.
Toute l'année.
Alors, il paraît que votre ado a refusé d'écouter cette émission avec vous.
Oui, alors
c'est intolérable.
Elle est à contact, donc elle était au lit tranquillement. J'estimais que c'était une heure correcte pour les réveiller vers 10h moins le quart pour pouvoir.
C'est très correct. Hein.
C'est très correct.
C'était un moment de conversation possible, toutes les deux, en étant ensemble ça. Et elle m'a claqué la porte au nez en me coinçant le pied dans la porte. Et donc, heureusement, j'avais une basket, ça a bien bloqué. Et là, j'ai senti qu'elle écrasait mon pied et que je ne pouvais pas faire autrement. Mmh. Donc, j'ai essayé, mais c'est comme les hurlements dont vous avez parlé, c'était des hurlements. Donc, j'ai fini par me dire que je partais, que ce n'était pas la peine de faire des choses à chaud. Je lui ai dit que j'allais écouter et téléphoner à France Inter pour justement témoigner. Alors là, ça a redoublé de colère. Donc je suis partie, je suis dans ma voiture et je peux parler tranquillement. Et donc je voulais savoir pourquoi, quand on propose quelque chose, souvent les adolescents disent non parce que voilà, et ils contestent. Et quand eux, ils nous demandent quelque chose, il faut qu'on le fasse tout le temps.
Mmh.
Alors, c'était ma question.
Docteur Olivier Revol.
Oui, c'est une très bonne entrée en matière. Dire non, c'est prouver qu'il existe. C'est-à-dire, l'opposition, elle est systématique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, à l'adolescence, l'adolescent résiste exactement là où les parents insistent. Donc, plus vous insisterez sur des choses, plus il va résister pour prouver que quelque chose a changé, que c'est plus un petit enfant. Et pour faire le lien avec ce qui était dit avant, eh bien, ce qui est grave, c'est ce qui touche sa santé, sa sécurité et le respect des valeurs. Et puis, il y a plein de choses qui sont pas graves. L'état de la chambre, le look, etc. Et je pense qu'il faut pas mettre tout dans le même sac.
Pascal Sétan, vous n'êtes pas d'accord?
Je suis pas d'accord du tout. Non, l'hygiène, leur corporel et la chambre. Je suis désolé, on peut pas vivre dans une poubelle. Moi, je suis là-dessus, je suis catégorique. J'ai vécu 150 émissions, donc auprès de 150 familles, avec des chambres catastrophiques où moi, je dormais dans la chambre de l'ado. Donc, je me dis, mais comment on peut dormir dans ces conditions d'une part? Parce que vous n'avez pas les odeurs, vous, la télé. Moi, je les avais. Ouais. Et puis, on attrape plein de choses au niveau du corps. Donc, au niveau de la santé, c'est pas très sain, je trouve, de ne pas être dans un milieu sain, justement. Ouais. On a le droit d'être bordélique, mais de pas être sale.
Professeur Marie-Rose Moreau, quel conseil à Claire qui, on sent son désarroi, là, face à cette adolescente qui refuse le dialogue, qui refuse de communiquer?
Bah oui, Claire, en plus, elle exprime très clairement, si je veux dire, ces impasses, justement, qu'il faut essayer d'éviter à l'adolescence. Enfin, ces impasses qui sont très présentes, mais ce qui est en jeu, je pense, dans une situation comme ça, c'est qui a le savoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'adolescente qui sait comment ça marche et Ou est-ce que c'est Claire, sa mère, qui sait? Et donc, en fait, là, à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de combat de boxe, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire, mais moi, je sais mieux, et finalement, t'es expert, et toi, tu te crois un expert là-dessus, tu sais moins bien que moi. Donc là, c'est là où il faut à la fois une reconnaissance et une négociation. Une reconnaissance qu'effectivement, ce qu'elle vit, cette adolescente, elle est bien placée, quoi, pour savoir, hein, c'est sûr. Et je me souviens quand j'ai écrit mon premier livre sur les adolescents et que ma fille était adolescente, elle m'a dit, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas parfait, quoi. Hein. C'est évidemment les adolescents qui ont ce savoir et qui, il faut le reconnaître et il faut d'une certaine façon le valoriser. Donc il faut pas vouloir imposer des tâches, il faut hiérarchiser. Et effectivement, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue sur l'hygiène, sur la chambre. Il faut voir en fonction de chaque adolescent ce sur quoi. Ça, c'est pas négociable, mais ça, le reste, écoute, il faut que tu apprennes ou que tu trouves ta propre manière de faire.
Pascal Sétan, comment maintenir le dialogue avant qu'il ne se rompe entre Claire et sa fille?
Alors, je connais pas trop la situation, mais je pense avoir saisi très, très brièvement. Déjà, c'est dès le matin, le réveil. Bon, écoute, on va écouter France Inter. Et puis il y a une émission sur l'ado et il y a Pascal le grand frère, donc déjà si elle me connaît cette ado, elle se dit non mais moi ça m'intéresse pas, je suis pas une ado de difficile. Elle pense ne pas l'être, alors peut-être que c'est le cas. Et c'est vrai que voir la maman dans sa voiture pour nous appeler, je trouve ça triste moi personnellement. Donc elle est quand même chez elle, donc c'est pas la maman de partir. Si l'ado reste dans sa chambre, c'est une chose, mais elle peut très bien appeler à côté, et il y a rien de mal d'appeler effectivement une émission pour avoir des infos.
Comment faire pour que le dialogue ne se rompe pas, docteur Revol? Peut-être ne pas hésiter à faire appel à une tierce personne dans laquelle l'adolescent a confiance, un grand-père, une tante, un médiateur, docteur Revol.
Un adulte référent qui soit pas les parents, c'est-à-dire que c'est pas de lui dont je me dois de me dégager. Lacan disait, l'oncle c'est pas mal aussi, parce que l'oncle c'est le père sans le pire. C'est-à-dire quelqu'un qui représente quelque chose, qui représente la loi, parce que c'est très fort ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ils cherchent des limites. La question qu'ils nous posent tous, maladroitement, avec leur provocation, comme la fille de Claire actuellement, c'est, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige cette famille, qui dirige cette école, qui dirige cet hôpital? Bon bref, ils veulent des limites, ils veulent un cadre. Et pour répondre à votre question, comment parler? Il y a quelque chose qui est fondamental avec les adolescents du 21e siècle, qui savent tout sur tout, qui sont hyper informés, c'est qu'il faut préférer convaincre plutôt que contraindre. Si on lui dit, tu vas écouter cette émission de France Inter parce que c'est important pour toi, etc., elle va lâcher l'affaire. Oui. Si on lui dit, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ce qu'ils vont dire et si tu es d'accord ou pas d'accord. Donc chaque fois qu'on va donner une possibilité à l'adolescent de montrer qu'il est quelqu'un, qu'on écoute, Et puis, il y a une grosse différence au XXIe siècle. C'est qu'ils savent tellement plus de choses que nous. C'est la première fois au monde que des adolescents nous apprennent quelque chose. On a tous demandé à nos enfants de nous installer une application, de nous formater notre ordinateur. Il faut accepter de se laisser enseigner par les enseignants, par les adolescents, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Claire?
Oui, je remarque que les filles ont plus de mal à écouter leur maman et les fils écoutent mieux leur maman. Alors, j'ai vraiment besoin d'aide parce que je remarque que quand c'est mon mari qui demande quelque chose ou qui propose quelque chose, c'est pratiquement toujours oui, et moi pratiquement toujours non. Donc je trouve ça vraiment injuste, même si la question est la même, donc j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît.
Professeur Marie-Rose Moreau.
Oui, alors Claire a raison, hein, les relations entre les filles et les mères sont plus difficiles en général, même si bien sûr il y a des exceptions, mais qu'entre les filles et les pères, et ben justement, il faut utiliser cette observation. Il faut se dire que le père, par exemple, ou le grand-père, ou quelqu'un d'autre va servir de médiateur, comme on le disait, mais aussi qu'au fond, quand elle dit non, l'adolescente, c'est pas sur le fond qu'elle dit non, c'est quelque chose de relationnel. Alors donc, du coup, on en revient à l'importance de cette question de la relation et ne pas vouloir, par exemple, ce matin, sans doute, elle n'a pas aimé être réveillée. Elle n'a pas aimé que sa mère définisse son rythme, quoi. Et quand on sait qu'en plus, les adolescents, ils ont du mal avec le matin, hein, parce qu'ils ont un retard de phase par rapport aux adultes, hein, et donc le matin, c'est difficile. Donc du coup, cette question de ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est la relation. C'est d'une certaine façon, elle le dit, mais la fille de Claire a dit, bah ouais, c'est moi qui décide de mes rythmes, de ma manière d'être et de mes intérêts. Donc du coup, il faut prendre ça en compte, en fait, pour justement ouvrir et ne pas considérer que quand elle dit non sur le fond. Mmh. Elle dit simplement, elle parle de la relation à ce moment-là avec sa mère.
Pascal Setens.
Oui, il aurait fallu peut-être anticiper la veille. Nous disons, tiens, demain matin, il y a une émission, si ça t'intéresse, tu peux effectivement l'écouter. Et puis, si l'ado, alors apparemment, elle est chez elle parce qu'elle est malade, hein, c'est ça, c'est pas ce que j'ai compris, qu'elle dorme, quoi. Donc, on va pas la réveiller. Donc, j'estime qu'à 10h moins le quart, bon, on peut se lever. Bah, pourquoi pas 11h moins le quart aussi. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, si l'ado est fatigué, si en plus on lui impose d'écouter une émission qui n'est pas forcément...
Ouais. Et dans votre livre, vous êtes très bienveillant avec les toujours. Adolescents fatigués, oui. Un peu paresseux. Hein, c'est étonnant venant de vous.
Alors, moi, je suis pas paresseux, mais je comprends qu'à un moment donné, on ait besoin de calme, de sommeil, de repos, et de pas être effectivement harcelé, entre guillemets, par les parents sur des ordres quotidiens.
Gonelle Boulet.
Ouais, juste deux choses sur ce qui a été dit. La première, c'est qu'effectivement, en tant que parent, on a aussi à devoir renoncer à des projections un peu idéales d'une relation avec notre enfant. Et oui, je vois très bien Claire, moi aussi, je rêverais d'écouter France Inter avec ma fille lovée dans mes bras et pouvoir disserter sur ce qui se passe à France Inter. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être renoncer à un moment donné. Voilà. Et la deuxième chose, juste, c'est les tiers-lieux importants, effectivement, dans l'adolescence. Club sportif, tout ce qui peut se vivre à l'extérieur de l'école, les colos, allons-y, les magazines.
Le scoutisme.
Le scoutisme, j'en parle souvent, mais c'est vrai. Moi, j'ai souvenir qu'à l'adolescence, il y a des choses, les parents ont beau nous les répéter. Moi, je me souviens de mon beau-fils, le sens de l'effort. Nous, on était beaucoup là-dessus à la maison, il n'y a rien. Enfin, on a l'impression que ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre. Quand il s'est retrouvé sur un stade de foot et qu'il a senti que physiquement, il allait falloir en faire des entraînements et des efforts, Mathéo, si tu m'entends, pour traverser le stade. Non, mais je me souviens que, en trois exercices de foot, tout ce que nous, on avait pu essayer de dire sur le sens de l'effort, l'effort avait été acquis, quoi.
Pascal Setens.
Surtout, c'est que le sport, c'est notre école. C'est, moi, j'ai trouvé une deuxième famille au sein du sport. J'ai la chance d'avoir fait du sport depuis l'âge de 15 ans. Je continue encore maintenant. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de rencontrer déjà d'autres personnes qui étaient dans mon délire sportif et dans le goût de l'effort. Et il y a aussi d'autres valeurs en dehors de l'effort. Il y a la valeur de respect des règles. On arrive à l'heure à l'entraînement. On respecte les arbitres. On respecte effectivement le prof, le coach. Et ça, parfois, c'est ce qu'on oublie de faire à la maison. Et on le fait, par contre, très bien à l'extérieur.
Merci beaucoup, Claire, hein, de nous avoir appelé ce matin. J'espère qu'on vous a éclairé. Alors Christelle nous écrit ceci. Ma fille de 15 ans me reproche de l'étouffer. C'est la principale source de conflit entre nous. C'est vrai que j'ai du mal à accepter qu'elle s'éloigne de nous. Olivier Revol, que dire à Christelle? Les parents doivent peut-être accepter de passer au second plan pendant cette période où les amis notamment sont essentiels.
Mais oui, c'est fondamental. Et que si elle pense que sa maman l'étouffe, eh ben c'est un bon signe. Ça veut dire qu'elle veut aller de l'avant. Et que finalement, notre mission, éduquer. Éduquer, la racine latine, ex ducere. Conduire au dehors. Si les parents viennent nous voir en se prenant la tête entre les mains en disant « mais il veut même plus partir au ski avec nous, mais qu'est-ce qu'on a fait alors qu'il était adorable ?» Mais s'il est mieux avec ses copains qu'avec vous, c'est que vous avez réussi votre mission. Bravo. Et on est des décontaminateurs avec Marie-Rose quand on dit ça aux parents.
Alors les conflits peuvent naître également quand les parents n'apprécient pas hein, les fréquentations de son ado. Il ne faut pas oublier que dire du mal des amis de son enfant, c'est indirectement lui dire du mal, hein, Pascal.
Oui, votre ado défendra toujours ses amis, hein, oui. quoi qu'il en devienne. Effectivement, et c'est vrai que le côté pote extérieur, je rejoins encore les psys qui sont avec nous ce matin. Pour une fois, je suis d'accord avec eux, parce que souvent. Je suis un peu pas en conflit, mais parfois je suis pas trop d'accord avec ce que j'entends. Et Dieu sait que j'en ai rencontré sur mes émissions. On a travaillé beaucoup avec des psychologues et des psychiatres et des pédopsies aussi. C'est vrai que l'ado va toujours défendre ses amis. Idéalement, ce serait bien de les rencontrer. Moi, j'ai toujours rencontré les potes de mes enfants parce que je voulais savoir avec qui ils traînaient d'une part. Et puis, je leur ai fait comprendre que cette personne-là, bah, personnellement, j'avais pas forcément d'affinité plus que ça. Donc, il fallait se méfier, faire attention.
Que faire quand le conflit porte sur le rejet des parents parce que son ado fréquente des amis noirs, arabes, homo, que faire dans ce voilà quand le conflit se cristallise sur des questions autour de l'identité Pascal Sautin.
Moi j'ai grandi en quartier où il y avait toutes les nationalités mais vraiment de tout hein. Ça partait des Italiens, des Espagnols, réunionnais, algériens, marocains, hindous, enfin voilà, j'avais tout le monde. Et moi j'avais cette chance justement, j'ai grandi avec ça.
Et comment faire quand voilà, le conflit se cristallise sur ça?
Alors, le souci c'est l'acceptation de l'autre déjà, l'acceptation aussi de la différence de nationalité, la différence par rapport au pays, j'aime pas telle ou telle religion par exemple. Ça peut être aussi une source de conflit hein quand on parle de religion, il y a des sujets que j'évite, la religion, le foot et la politique parce que on va s'embrouiller de toute façon. Donc voilà, donc parler avec ses enfants de ce genre de choses, ça peut être très intéressant pour voir leur position justement, leur pensée par rapport à ça.
Marie-Rose Moreau, quand les parents rejettent les amis pour des questions liées à l'identité, aux origines.
Alors ça se fait pas, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair que les adolescents, ils, d'une certaine façon, ils modifient les parents sur ces questions. Bien sûr que les adolescents, les parents ne peuvent pas juger les amis. On peut éventuellement dire notre opinion, mais j'allais dire que ça n'a aucun intérêt parce que c'est justement l'apprentissage des adolescents de construire leur relation sociale, de reconstruire leur monde, mais aussi leurs valeurs. Et effectivement, on constate que les adolescents, ils sont souvent beaucoup plus ouverts sur cette question de la diversité, des minorités, de moi j'aime les garçons, moi j'aime les filles, etc. Ils se construisent avec cette flexibilité et cette générosité, j'allais dire, le plus souvent. Et les parents, ils ont parfois plus peur de ça. Et donc, ça, c'est très important. C'est de la responsabilité des adolescents, quoi, de faire leur lien social, de construire leurs valeurs et de construire un monde qui leur ressemble. Donc, lorsque le conflit se cristallise là-dessus, je crois que là les parents, ils doivent avoir un peu de recul et de se dire, mais attention, je dis que c'est important les valeurs, mais c'est les valeurs de qui? C'est les valeurs de mon enfant. Et moi, j'aime mon enfant et j'accepte aussi que les valeurs de mon enfant, de mon adolescent, soient un peu différentes. Parce que là, sinon, le conflit, on pourrait dire qu'il vient du côté des parents. Et le conseil, c'est on réfléchit ensemble. Ces adolescents, ils grandissent et ils ont leurs propres valeurs.
Allez, il est 11h moins le quart. C'est l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, Gwenaëlle Boulay, vous avez le sens du timing et vous avez décidé d'adresser vos meilleurs vœux à tous les parents.
Et oui, comme je suis plutôt quelqu'un de conventionnel qui aime les rituels, pour bien démarrer cette nouvelle année, j'avais en effet envie de souhaiter 1000 choses à tous les parents, de petits, de moyens, de grands. 1000 petits vœux qui pourraient potentiellement nous permettre à tous de passer une bonne année.
Alors, par qui commence-t-on ?
Alors d'abord, je pense qu'il est important d'adresser nos vœux à tous ces adultes qui ne sont pas parents et qui doivent à longueur d'année supporter les plaintes de leurs amis ou collègues parents. Après tout, eux aussi ont parfois des insomnies, des nuits hachées, des vacances à organiser, des diarrhées, des pets de travers et des otites. Mais qui s'en soucie ? Personne ? S'en plaignent-ils au boulot ? Et non ? Donc certains d'entre eux donneraient peut-être tout pour avoir un petit qui les réveille la nuit, un moyen pinailleur sur les légumes ou un ado scotché à son portable. Donc mes vœux numéro 1 vont à tous les non-parents pour leur patience vis-à-vis de leurs congénères. Eux aussi méritent qu'on les chouchoute en ce début d'année.
D'autres vœux ?
Bien sûr, donc allons-y chronologiquement. Déjà, bonne année à tous les parents de tout petit. Ah, vous l'avez pourtant dit que c'était bien crevant, hein ? Mais dans un petit coin de votre tête, vous pensiez que tous ces jeunes parents affreusement cernés et plus très pomponnés en faisaient des tonnes, qu'ils étaient quand même un peu chochottes. Après tout, ça fait des générations qu'on fait des enfants sans en faire des caisses, hein ? Allez avouer que vous pensiez ça. Mais bon, maintenant, vous êtes en plein dedans et le tunnel vous semble bien long. Surtout le dimanche matin, vers 6h30, quand vous vous retrouvez à jouer au culbuto. Chut, maman dort encore. Oh non, il reste encore 2 heures avant qu'il fasse jour. Gros, gros moment de solitude, n'est-ce pas ? Allez, haut les cœurs, ne placez pas la barre trop haut. Oui, il est globalement normal de ne pas réussir à lire un seul roman avec un bébé de 3 mois. Oui aussi, il est globalement normal d'avoir la libido dans les chaussettes quand un petit être de 3,5 kg est passé par là quelques semaines plus tôt, voire quelques mois plus tôt. Tout ça est normal. Donc avec des petits, je pense qu'un objectif raisonnable de bonne année doit pouvoir se résumer à bien répartir les forces pour tenir le coup. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, une soupe et au lit, et puis le reste reviendra.
Sinon, vous avez peut-être des vœux pour les parents de moyens et de grands ?
Oui, bon, alors, sauf exception, pour les parents de moyens, disons, fin de maternelle primaire, je dirais, profitez-en, vous mangez votre pain blanc. Collectivement, on pourrait se donner, allez, 3 objectifs, ça aurait pu être 4 ou 10, mais bon, j'avais pas toute la nuit. Donc, je vous propose, objectif 1, on se détend sur le scolaire, hein. Après tout, sera-t-il si important de connaître par cœur sa table des 7 dans le monde d'après ? Objectif 2, pour ça, je vais m'appuyer sur une citation de je sais plus qui. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Pensez-y, en termes d'éducation, ça peut pas mal soulager. Et objectif 3, partager un maximum de moments ensemble. Confère les vœux d'après, les parents d'ados donneraient tout pour être encore à votre place et entendre juste encore une fois un « tu fais un jeu avec moi ».
Tiens, justement, que souhaiter aux parents d'ados ?
Eh bien, très chers parents d'ados, pour vous, c'est la fin d'un monde et vous ne voyez pas encore très bien à quoi va ressembler le prochain. Vous êtes un peu en plein bug de l'an 2000, sauf que votre bug à vous a vraiment lieu. Donc cette année devrait donc à nouveau ressembler à un exercice d'équilibre sur une poutre. La poutre vous semble bien mince, n'est pas Nadia Comaneci qui veut, et vous avez l'impression de payer un peu cher chacun de vos faux pas. Mais c'est pas une raison pour renoncer. Votre fragile équilibre repose sur un savoureux mélange de cadre, de confiance, d'écoute et de lâcher prise. Et comme pour le vélo, l'art de la poutre repose sur une règle fondamentale, ne jamais regarder ses pieds, mais bien regarder au loin. Donc à la poutre comme au vélo, regarder ses pieds, c'est la chute assurée. Pour passer l'adolescence, c'est la même chose, mieux vous regarder au loin pour garder le cap. Sur ce, je vous souhaite à tous, parents et non-parents, une savoureuse année. N'oubliez pas, 2022, c'est 2021, mais en mieux.
La chronique « Ma vie de parent » de Gonel Boulet à écouter sur l'appli France Inter. Dans un instant, comment éviter les conflits parents-ados autour des écrans ? Vaste programme. En attendant, on écoute M. Grandes Oreilles.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous ils sont les merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles.
je surveille les belles rimes en hey, les autres à la corbeille. Tu sais, mes grandes oreilles, elles m'émeuvent et m'égayent, rouges comme les groseilles. Parfois, elles m'effrayent, je voudrais pas se pareil.
Oreilles, c'est la nouvelle chanson de M.
Grand bien vous fasse.
Eh, hey, tu sais, frère de Pauline, il s'est fait tatouer une super tête de mort sur le bras.
Ah ouais?
Ouais. Je me suis dit, moi, ça me ferait bien d'avoir un papillon en bas du dos.
Et de faire tatouer ma main sur la joue, ça te dirait ou pas? Range les cuillères.
Sur France Inter.
10h52, parents d'ados, comment surmonter les petites et grandes crises. Nos invités, le professeur, la professeure Marie-Rose Moreau, le docteur Olivier Revol et l'éducateur Pascal Setins.
8%, t'es contente, hein?
Je suis ravie, chérie.
7%, mais c'est criminel ce que tu fais, c'est pervers!
Attendez, là, parce que je t'entends te la monter depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe là?
Mais c'est maman, elle m'a encore puni, mon portable, toujours mon portable, mais t'as rien fait, mon portable, ok?
De quoi tu parles, arrête de hurler, ton portable tu l'as dans les mains, enfin!
Non, mais c'est parce que j'ai trouvé beaucoup mieux que de lui confisquer. Je suis assez fière d'ailleurs.
Ouais. 7%, putain!
C'est quoi l'histoire là?
Eh ben en fait, ce coup-ci, j'ai confisqué le chargeur. Et alors tu vas voir, c'est énorme, c'est comme au cinéma. Je pense que t'arrives au meilleur moment, c'est la fin.
Non!
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a Zoé qui a partagé une vidéo, si je la regarde, je perds 2%. Oh mon dieu!
Ah! Ah, j'adore!
T'as vu?
J'adore l'idée, quoi! Appuie sur la flèche, vas-y, vas-y, vas-y.
Tu Allez. As envie de la télécharger.
Mais oui!
Tu as envie.
C'est Zoé, c'est ta copine!
C'est peut-être Matt. Important, elle sort peut-être avec quelqu'un.
Arrête!
Oui, c'est peut-être ça. Ah, c'est souvent. Moi, à mon avis, elle est avec quelqu'un.
Arrête de dire ça! Arrête, arrête, c'est bon, c'est bon.
Extrait de parents mode d'emploi. Alors, la consommation excessive des écrans peut être source de conflits entre parents et ados. Comment déminer ce type de dispute, docteur Olivier Revol? Quels sont vos conseils de base?
Ben, c'est 80% des conflits actuellement. Les conseils de base, c'est qu'il y a un cadre. Et dans ma dynamique de convaincre plutôt que de contraindre, leur expliquer que si on interdit le téléphone le soir, c'est pas pour les ennuyer et considérer que c'est des bébés, mais simplement parce que la lumière envoie une fake news à leur cerveau et qu'ils dormiront encore plus tard, comme l'évoquait tout à l'heure Marie-Rose, et que du coup, ben, ça va retentir sur leur peau, leurs cheveux, leurs muscles. Expliquer pourquoi.
Pascal Setins, vos conseils?
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Le téléphone portable, à un certain âge, hein, reste en bas, pas dans la chambre. Alors, j'ai rencontré souvent des parents qui mettaient une télé, un écran d'ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Et en fait, vous avez une pièce pleine d'écran. Donc, je trouve pas ça personnellement très très judicieux.
Et très cohérent. Professeur Marie-Rose Moreau, comment déminer ce type de conflit très très récurrent? On a beaucoup de questions dans ce sens-là. Le portable, la tablette, qui sont des sources de disputes.
Ben oui, bien sûr, c'est une source de dispute, mais justement, ça concerne pas que les portables, en fait. Même si, bien sûr, ça passe par là, parce que c'est un objet privilégié de la jeune génération, si j'ose dire. Et en plus, c'est un objet qui leur appartient plus à eux qu'à nous. Hein, donc du coup, au fond, ils ont du mal à accepter notre autorité sur cette question. Et par ailleurs, nous, les parents, on n'est pas toujours non plus des exemples. Hein. On peut répondre pendant le repas, on peut nous-mêmes l'emmener dans son lit, etc. Donc, il y a à la fois une question de légitimité, mais il y a aussi, Olivier parlait de convaincre, c'est vrai. Moi, je dis négocier, mais c'est dans la même idée, quoi. On accepte l'idée que c'est un objet qui leur appartient, mais attention, il y a des limites parce que de toute façon, ça va se retourner contre eux s'ils apprennent pas à bien s'en servir, quoi.
Maxence, je rappelle que tu es resté avec nous, tu as 16 ans. Est-ce que les écrans, le portable, la tablette, ce sont des sources de conflits avec tes parents? Et comment c'est géré justement à la maison?
Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire.
Il nous reste 3 minutes.
Chez nous, il y a pas mal de conflits à cause des écrans. Enfin, je juge qu'on n'a pas trop d'écrans, mais on en a comme toute famille à peu près connectée aujourd'hui, quoi. Et ce qui se passe, c'est souvent qu'on a le droit au fameux pas de téléphone à table. Puis après, il y a la famille qui prend le téléphone à table, mais c'est pour le travail. Donc ça a tendance à énerver à nous énerver, mon frère et moi. Et bah justement, ça fait depuis maintenant 1 ou 2 ans que le téléphone le soir, ils me le prennent plus. Mais ça, c'est après une histoire de confiance et que je leur ai montré que mon téléphone, je m'en servais pas pour faire n'importe quoi et qu'ils pouvaient me le laisser. Et ils savent que j'utilise pas les écrans que pour m'abrutir et que je fais beaucoup de trucs pour me cultiver à côté et que même si je fais une certaine bonne dose de réseaux sociaux, je pense, c'est pour m'éduquer justement et je trouve toujours des bonnes excuses pour pouvoir en faire un peu plus, quoi.
Alors là, on a beaucoup de questions sur les sanctions. Quel type de sanctions, docteur Olivier Revol, avec les ados? Est-ce que vous préconisez des sanctions, des punitions ou pas du tout? Quelle est votre position, tiens, sur ce sujet? On a beaucoup de questions hein, dans ce sens-là.
Déjà, il y a une position qui est claire, c'est qu'on ne sanctionne pas sur ce qui ouvre sur l'extérieur. J'ai trop d'adolescents qui se voient privés de foot ou privés d'activités ludiques qui, justement, leur permettaient de trouver des stratégies pour aller bien, et ça, on n'y touche pas. Par contre, on peut toucher, effectivement, au temps d'écran. Ça les touche terriblement, et en plus, c'est mieux pour leur santé.
Pascal Sautens.
Oui, complètement d'accord avec ça. Il faut limiter. Il faut savoir discuter, limiter, mettre des règles et se dire à telle heure. Et moi, à table, quand je mange avec mes enfants, mes belles-filles, etc., on est nombreux, il n'y a pas de téléphone portable. Hein. Et pourtant, moi, mon téléphone a sonné tout à l'heure avec vous. Je le retourne et je raccroche. Quoi. Je ne décroche pas le téléphone parce que j'ai du respect pour ceux qui m'accompagnent. Et c'est juste, ouais, effectivement, c'est ça, c'est le mot respect, encore une fois.
Gonelle Boulay.
Oui, et puis pour peut-être que les négociations ne soient pas sans cesse remises sur le tapis, nous, j'avoue qu'on avait fait un système de contrat, c'est-à-dire un contrat signé qu'on renouvelle tous les ans avec nos enfants, qui évolue avec l'âge. Mais c'est vrai que si on peut éviter d'avoir ce sujet qui revient en permanence, on s'entend plus, quoi. Donc c'est vrai que la notion de contrat, par exemple, elle était assez sympa. Elle permettait de pas en parler tout le temps, quoi.
Tiens, une poignée de secondes, docteur Revol. Jean qui nous dit qu'il ne supporte pas que son fils de 17 ans s'oppose à lui. Il nous dit « j'ai l'impression d'être rabaissé ». Qu'est-ce qu'on peut dire à Jean?
On le rassure. On le rassure et on lui explique que l'opposition du, comme on le disait tout à l'heure, du parent de l'enfant face aux parents de même sexe, et que jusqu'à maintenant, il faisait tout pour vous ressembler, et maintenant, pour exister, il doit s'opposer. C'est un signe de bonne santé. Bravo, Jean.
Merci beaucoup, docteur Olivier Revol, professeur Marie-Rose Moreau, d'être intervenu dans cette émission. Merci, Pascal Sutton.
Merci à vous.
Parent d'ado de A à Z vient de sortir aux éditions Bussière. Demain, est-il bien utile de faire des jeunes et des détox en début d'année? Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et témoigner sur l'appli France Inter.